Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Roréa. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes samedi 25 Farvardin, 1403 du calendrier iranien, 13 avril 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. La France, la Pologne, la Russie et le Royaume-Uni déconseillent à leurs citoyens de se rendre en Israël. Le corps des gardiens de la révolution islamique a saisi un porte-conteneur lié à Israël dans le détroit d'Ormuz. La résistance à Gaza lance un barrage de roquettes sur les colonies israéliennes. Et l'Iran exhorte l'Italie à profiter de sa présidence du G7 pour tenter de mettre fin à la campagne génocidaire d'Israël à Gaza. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Les forces spéciales du corps des gardiens de la révolution islamique ont saisi le porte-conteneur MSC Aries lié à Israël près du détroit d'Ormuz, rapporte l'agence presse officielle IRNA. Le navire a été saisi par la force spéciale de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique lors d'une opération héliportée et de descente sur le pont du navire, a indiqué samedi l'agence. Le navire se dirige désormais vers les eaux territoriales de l'Iran, a indiqué l'agence IRNA. Le navire battant pavillon portugais, exploité par la société Zodiac, appartient au mania israélien de l'immobilier, de l'énergie, de la technologie et du transport maritime, Eyal Ofer, ajoute le communiqué. Zodiac Maritime fait partie du groupe Zodiac du milliardaire israélien. Une vidéo publiée par le corps des gardiens de la révolution islamique montre des commandos de la force spéciale de la marine descendant en rappel sur une pile de conteneurs posés sur le pont du navire. On pouvait entendre un membre de l'équipage du navire dire « Ne sortez pas ». Il dit ensuite à ses collègues de se rendre sur la passerelle du navire tandis que d'autres commandos descendent sur le pont. Des rapports indiquent que le navire a été localisé pour la dernière fois au large de Dubaï en direction du détroit d'Ormuz hier vendredi. Le navire aurait désactivé ses données de suivi, ce qui est courant pour les navires affiliés à Israël se déplaçant dans la région. Cet incident survient alors qu'Israël se prépare à des représailles iraniennes après la frappe du régime sioniste du 1er avril contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, la capitale syrienne. Les forces de la résistance palestinienne ont lancé de nouvelles attaques contre plusieurs villes et colonies israéliennes dans les territoires occupés. Les médias israéliens affirment que 8 roquettes ont été lancées depuis Gaza vers Sderot, les sirènes ayant été entendues aussi dans les environs. Les attaques ont été menées par les brigades Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement du djihad islamique de la Palestine. Les forces de la résistance ont attaqué la ville de Sderot et plusieurs autres colonies entourant la bande de Gaza avec de multiples roquettes. Aucun dégât ni aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Cela survient alors que la résistance palestinienne continue d'affronter les forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza, près de 6 mois après que l'armée usurpatrice d'Israël a lancé une invasion contre le territoire assiégé. Les attaques incessantes de l'armée israélienne contre la bande de Gaza continue de faire de nouvelles victimes parmi les civils. Au moins 29 personnes ont été tuées dans une attaque qui a touché une maison au centre de la ville de Gaza. 20 autres civils ont perdu la vie lors de frappes israéliennes sur d'autres zones de l'enclave palestinienne assiégée. Les forces israéliennes ont également pris pour cible un certain nombre de journalistes dans le camp de Nusayrat, au centre de Gaza, faisant de nouvelles victimes. Selon des sources médicales, l'un des journalistes se trouve dans un état critique. Plus de 33 600 personnes ont été tuées à Gaza depuis qu'Israël a commencé sa guerre génocidaire. Des milliers d'autres sont toujours portés disparus. Et enfin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, affirme que Téhéran a toujours agi de manière constructive sur les questions régionales et a payé un lourd tribut pour assurer la stabilité et la sécurité durable de la région de l'Asie occidentale. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a fait cette remarque lors d'un entretien téléphonique avec son homologue italien. Il a également exhorté l'Italie à profiter de sa présidence du groupe des pays G7 pour tenter de mettre fin au génocide palestinien commis par Israël dans la bande de Gaza. Antonio Tajani, pour sa part, a déclaré que l'Italie, aux côtés de l'Union européenne, avait condamné l'attaque israélienne contre l'ambassade d'Iran en Syrie, mais a appelé la République islamique d'Iran à faire preuve de retenue. La France, la Pologne, la Russie et le Royaume-Uni, ainsi que l'Inde, mettent en garde leurs citoyens contre tout voyage en Israël, par crainte d'une réponse de l'Iran à l'attaque du régime sioniste contre le consulat iranien à Damas, survenu le 1er avril. Lors d'un discours prononcé mercredi à Téhéran, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souligné que le régime israélien doit être puni, et il le sera. Et cela pour sa frappe meurtrière contre les locaux diplomatiques iraniens, réalisée le 1er avril 2024 à Damas, capitale de la Syrie. Le régime sioniste a commis une autre erreur, et c'était l'attaque contre le consulat iranien en Syrie, a-t-il dénoncé. Le Quai d'Orsay a recommandé vendredi aux citoyens français de ne pas se rendre en Israël, au Liban, en Cisjordanie occupée et à Gaza. Le Royaume-Uni a conseillé à ses citoyens d'éviter de voyager en Israël et dans les territoires occupés de la Palestine, en raison de la possibilité d'une attaque contre le territoire israélien depuis l'Iran. Le ministère britannique des Affaires étrangères déconseille tout voyage vers le nord d'Israël, la bande de Gaza, les zones proches de Gaza et la Cisjordanie occupée. Le ministère polonais des Affaires étrangères a également mis en garde contre les voyages de ses citoyens en Israël et au Liban. On ne peut pas exclure qu'il y ait une escalade soudaine des opérations militaires qui entraînerait des difficultés significatives pour quitter ces trois pays, a déclaré le ministère dans un communiqué. toute escalade pourrait entraîner des restrictions importantes du trafic aérien et l'impossibilité de franchir les frontières terrestres, précise le ministère polonais dans son communiqué. Pendant ce temps, l'Inde a exhorté ses citoyens à ne pas se rendre en Israël et en Iran jusqu'à nouvel ordre et compte tenu de la situation qui prévaut dans la région. Le ministère indien des Affaires étrangères a annoncé que les citoyens indiens devraient observer les plus grandes précautions concernant leur sécurité et limiter leurs déplacements au minimum. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a prévenu vendredi que les prochains jours exigeront que les forces israéliennes soient en alerte et qu'ils soient préparés. Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes vendredi après-midi qu'il s'attendait à ce qu'une frappe iranienne contre Israël ait lieu incessamment sous peu. Nous sommes dévoués à la défense d'Israël. Nous soutiendrons Israël. Nous aiderons à la défense d'Israël et l'Iran ne réussira pas, a-t-il prétendu. Cela survient alors que la République islamique d'Iran s'est engagée à punir Israël pour la frappe aérienne du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, la capitale syrienne. L'attaque israélienne a tué deux militaires iraniens de haut rang qui étaient en mission de conseil en Syrie, ainsi que cinq des officiers qui les accompagnaient. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que le général de brigade Mohammad Reza Zahedi, commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique, et son adjoint, le général Mohammad Hadi Haji Rahimi, figuraient parmi les sept martyrs de l'attaque terroriste menée par le régime israélien.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Téhéran a promis de riposter à la frappe aérienne israélienne qui a tué sept conseillers militaires iraniens à Damas dans une attaque contre la section consulaire diplomatique iranienne en Syrie, ainsi qu'aux six Syriens le 1er avril. Alors, le guide suprême de la révolution islamique a renouvelé cette promesse lors de son discours le jour de l'Aïd al-Fitr, la fête de Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, et ce qui a suscité la panique et les inquiétudes chez, bien sûr, le régime d'occupation israélien et ses alliés occidentaux. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts qui nous rejoignent après un petit reportage sur ce sujet. Restez avec nous, on se retrouve.
L'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, leader de la République islamique d'Iran, a dirigé ce mercredi matin 10 avril la prière de l'Aïd al-Fitr, le premier jour du mois de Shawwal, dixième mois du calendrier lunaire, dans la grande mosquée de Téhéran, capitale iranienne. La prière a eu lieu en présence de nombreux fidèles venus de tous les horizons. Le leader de la révolution islamique a évoqué l'attaque de missiles israéliens contre la section consulaire de l'ambassade iranienne à Damas le 1er avril, qui a tué en martyr sept personnes, dont le général de division Mohammad Reza Zahedi, commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, et son adjoint, le général Mohammad Hadi Haji Rahimi. Le régime sioniste pervers a commis une autre erreur, l'attaque contre le consulat iranien en Syrie. Le consulat et les installations diplomatiques de tout pays sont considérés comme le territoire de celui-ci. Lorsqu'ils attaquent notre consulat, cela signifie qu'ils ont attaqué notre territoire, a averti l'Ayatollah Khamenei. Le régime pervers a commis une erreur et doit être puni, et sera puni, a-t-il assuré. L'Ayatollah Khamenei a condamné la guerre menée depuis plus de 6 mois par le régime sioniste contre la bande de Gaza et qui a mis au grand jour la nature perverse des civilisations occidentales. À travers la guerre génocidaire menée par Israël depuis 6 mois contre les Palestiniens de Gaza, les gouvernements occidentaux ont mis au grand jour la nature perverse des civilisations occidentales. Ils ont tué des enfants dans les bras de leurs mères et des patients dans les hôpitaux. Leur force n'égale pas celle des combattants de la résistance. C'est pourquoi ils tuent des enfants et des opprimés et ont massacré plus de 30 000 innocents, a-t-il dénoncé.
Voilà, retour au plateau. J'ai l'immense plaisir de recevoir par Skype Monsieur Bernard Cornoux, analyste politique et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, ravi de vous retrouver.
Bonjour à toutes et à tous.
Immense plaisir d'avoir parmi nous Maître Elie Hatem, juriste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, Elie Hatem.
Merci de votre invitation et salutations à vous, téléspectateurs, et à Monsieur Bernard Cornoux.
Alors, on va se lancer dans le débat tout de suite. Avec vous, Maître Hatem, alors la promesse renouvelée de l'Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, le leader de la révolution islamique d'Iran, de punir l'entité sioniste après l'attaque contre la section consulaire d'Iran à Damas. Une violation de tous les principes du droit international, une ligne rouge franchie par Israël. Alors, quel premier regard portez-vous sur ces évolutions? On voit Israël très paniqué avec des gestes et des actions hystériques et ses soutiens occidentaux, les États-Unis et en Europe aussi, ces pays-là réitèrent leur soutien à Israël sans condamner cette action qui est violation des droits, du droit international.
Bah effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, il s'agit d'une attaque terroriste. Bon, c'est pour utiliser un terme un peu vulgaire qui est très utilisé par les médias ou par certains politiques, mais qui n'a pas un fondement juridique. Parce qu'il n'y a pas eu encore aucune convention qui définit le terrorisme. C'est une attaque violente et qui fait partie d'une série d'attaques terroristes de la part de l'entité sioniste, à l'encontre de plusieurs pays, à l'encontre de plusieurs personnalités, sans avoir recours au principe du droit international public qui interdit l'usage de la force ou de la violence dans les relations internationales. Parlons droit. En droit, il s'agit d'un acte de belligérance qui a été effectué par cette entité, l'antisioniste, qui pour certains est considéré comme un État, notamment reconnu par bon nombre de pays des Nations Unies. Un acte de belligérance, ça sous-entend des représailles de la part de l'autre État qui est victime de cet acte de violence et qui lui a causé des dommages. En principe, en théorie, les représailles, comme les actes, les attaques, et notamment cette attaque, encore une fois, d'un terme vulgaire, terroriste de la part d'Israël ou de l'entité sioniste constitue un acte de guerre. Ce qui permet, et je ne dis pas légalement, mais d'un point de vue légitime, et c'est reconnu par le droit international, parce que le droit international, encore une fois, interdit en principe le recours à la force pour régler les conflits internationaux, mais il ferme les yeux sur les représailles, et pas, je n'ai pas utilisé le mot que vous avez utilisé tout à l'heure de punition. En droit, il y a un acte qu'on appelle les actes de représailles et qui sont considérés comme étant licites par le droit international public pour répondre à cette violation du territoire iranien, parce qu'il faut rappeler que les ambassades et les consulats sont considérés par les deux conventions de Vienne de 1961 et de 1963, comme étant des territoires qui appartiennent à la mission diplomatique de l'État qui est reconnu par un autre, en l'occurrence le consulat est protégé en plus par le principe de l'inviolabilité prévu à l'article 30 de la convention de Vienne de 1963. Donc, il s'agit d'un acte de guerre de la part de cette entité à l'encontre de l'État iranien, et ce n'est pas la première fois que l'entité sioniste s'attaque à des personnalités publiques qui représentent l'État, comme le général Soleimani, mais qui commet également des actes internationalement illicites sur le territoire iranien. Nous avons assisté à une série d'assassinats, d'exécutions de savants iraniens sur le territoire iranien par les services secrets, par le Mossad israélien, et tout cela constitue des actes internationalement illicites qui permettent à l'État iranien d'entreprendre des représailles qui sont donc tout à fait légitimes selon les règles du droit international public.
Merci beaucoup. Monsieur Cournon, alors un acte de guerre contre l'Iran, pour reprendre la qualification utilisée par Maître Hatem, le consulat et les missions diplomatiques de n'importe quel pays sont considérés comme le territoire de ce pays. Et lorsqu'ils attaquent notre consulat, cela signifie qu'ils ont attaqué notre sol. C'est ce qu'a déclaré Téhéran. Quel regard portez-vous sur ces évolutions et cet acte de guerre?
Oui, pour compléter le propos de M. Hatem, qui est plus compétent que moi en droit international, mais l'article 51 de la charte dit qu'aucune disposition de la charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc en fait, ce droit de défense est légitime tant que le Conseil de sécurité n'aura pas pris des mesures fortes pour arrêter ce genre d'agression. Or, comme l'a rappelé M. Elatem, les agressions de l'État israélien par avion, par bombardement, par des assassinats étaient très nombreuses. Et pour l'instant, le Conseil de sécurité n'a pris aucune mesure pour arrêter ça. Et en fait, tout ceci est permis dans la propagande d'atmosphère qui entoure l'Iran, où tout le monde, y compris le journal Le Monde hier soir, et je l'aurais déjà protesté contre ça, parle de l'armement nucléaire iranien, comme s'il existait, ou comme disait le président Bush, peut-être le président Trump, peut-être fait mis en place d'ici 35 jours. Tout ça, ce sont des fantasmes, ce sont de la propagande de sources israéliennes d'ailleurs, qui ont souvent manipulé à l'intérieur du système de l'Agence internationale de l'armement atomique, de l'énergie atomique, pardon, pour faire croire que l'État iranien, la République islamique, cherchait à se doter d'un armement nucléaire. Alors que si on lit les documents officiels et on connaît l'Iran de l'intérieur, on comprend bien que ce que veut l'Iran, c'est développer ses connaissances et sa capacité scientifique dans tous les usages pacifiques, civils, de l'énergie nucléaire, y compris la santé, y compris la production d'énergie et tout ce qui peut être fait avec cette énergie moderne, bien sûr difficile, mais voilà. Donc, ce droit de défense peut s'exercer. C'est vrai qu'il y a des grands risques, non seulement pour l'État israélien, mais aussi pour toute la région, pour l'Iran, pour le Liban. Donc je ne souhaite nullement que ce droit de défense soit exercé de façon très violente et que ça enclenche une guerre régionale qui serait très destructrice dans l'état des forces de la région.
Maître Eli Hatem, alors la mission iranienne auprès de l'ONU a souligné qu'une condamnation par le Conseil de sécurité de l'ONU, par les pays occidentaux, de l'attaque israélienne contre la section consulaire de la République islamique d'Iran à Damas aurait pu éviter les tensions et les représailles qui sont rendues nécessaires, qui sont désormais nécessaires. C'est décidé par l'Iran. D'ailleurs, il faut rappeler que l'Iran est un acteur raisonnable et logique, et il sait respecter les droits internationaux Alors, comment réagissez-vous à cette inaction et à ce soutien apporté, comme d'habitude, même après cette violation des principes du droit international flagrant par Israël, ce soutien apporté à Israël, ce soutien renouvelé Israël qui est indéfendable?
Bah écoutez, il faut dire que le principal pays qui soutient l'entité sioniste, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui sont, comme nous le savons, dans matière de politique étrangère, qui sont téléguidés par les lobbies pro-israéliens ou les lobbies sionistes, notamment le Anti-Defamation League et l'AIPAC. Donc ce qui fait qu'il y a un soutien inconditionnel de la part des États-Unis à cette entité, et il en est de même des pays qui sont sous l'hégémonie américaine et qui sont les pays la plupart du temps de l'Union européenne, en particulier le monde anglo-saxon, mais la France, l'Italie, etc., et qui sont donc, je dirais, tenus par cette sorte de terrorisme, il faut le dire, psychologique, intellectuel et politique, qui pèsent sur eux, et ils ne sont plus libres de leur position politique comme l'étaient les pays avant, notamment la France du temps du général de Gaulle et j'en passe. C'est ce qui explique en fait cette attitude. Deuxièmement, vous avez souligné un point qui est très important. Jusqu'aujourd'hui, l'Iran a fait preuve d'une très grande retenue. Il a été attaqué, comme je le disais tout à l'heure, à maintes reprises. Il a été victime de violations de ses droits, de son territoire. Et puis, il a ramassé un bon nombre d'assassinats de personnalités militaires et politiques, donc des personnalités publiques. Et malgré ces actes illicitement, et qui sont internationalement, pardon, illicites, il n'a pas pris de représailles. Il n'a pas également fait usage, comme l'a dit à juste titre M. Bernard Cornu, de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour pouvoir se faire prévaloir donc de représailles qui sont tout à fait légitimes, comme l'indiquent les dispositions d'article 51 de la Charte des Nations Unies. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de ne pas être d'accord avec M. Cornu quand il dit que l'Iran ne va pas avoir recours à des armes nucléaires et ne va pas développer le nucléaire à des fins militaires. Moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout si l'Iran a accès à l'arme nucléaire. Au contraire, il va falloir que l'Iran puisse accéder à ces armes pour utiliser cela comme un moyen de dissuasion, parce que l'Iran fait preuve d'une retenue, d'un respect absolu du droit international public. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas fait usage quand même des exceptions du principe du non-recours à la violence dans les relations internationales, alors que l'entité sioniste, nous voyons ce que fait Israël sur le terrain avec les crimes de guerre, mais surtout les crimes contre l'humanité. Nous assistons aujourd'hui à un génocide sur le terrain, à des attaques, à des occupations du sud du Liban qui perdurent depuis le temps, des attaques contre la Syrie, contre l'État syrien, l'État voisin, la destruction de tout l'arsenal militaire. Donc, c'est une entité qui est fondée sur des principes belliqueux qui menacent la paix et la sécurité internationale et qui dispose de l'arme nucléaire. Donc, il lui faut en contrepartie pour créer un équilibre. Et moi, je prie et je croise mes doigts pour que l'Iran ait cette arme-là pour créer un certain équilibre de dissuasion. Car c'est ce qui maintient, en fait, la société internationale. Nous nous souvenons quand le monde était sous la bipolarisation, il y avait les deux pôles qui pouvaient, du fait de ce principe de dissuasion, garder un certain équilibre et sauvegarder la paix par cet équilibre dissuasif.
Merci Ali Hatem. Alors, les autorités du régime sioniste s'inquiètent du fait que les représailles, la réponse de l'Iran seront tout à fait légales du point de vue du droit et de la coutume internationale. C'est pourquoi les responsables de ce régime, et y compris le ministre de la guerre d'Israël, déclarent « nous n'avons pas accepté la responsabilité ». Alors, paniqués, ils l'ont avancé, la responsabilité de l'attaque contre l'ambassade iranienne, et nous ne voulons pas d'une guerre avec l'Iran. À chaque fois, ils font ce qu'ils veulent. Les alliés d'Israël, qui sont membres du Conseil de sécurité, malheureusement, appellent Téhéran et l'invitent à la retenue. Ce qui est pire encore, c'est que cette action, cet acte de guerre d'Israël intervient au moment où il est, au sens vrai du terme, isolé, détesté à l'échelle internationale à cause de la campagne génocidaire en cours dans la bande de Gaza. Je vous laisse réagir, Monsieur Bernard Cournou, à propos de ces évolutions et les déclarations d'Eli Hatem.
Oui, je suis d'accord. Étant moi-même contre l'armement nucléaire, je préférerais beaucoup que le Conseil de sécurité prenne des mesures sous résolution au chapitre 7 pour obtenir la remise des armes nucléaires dont dispose l'État israélien sans vraiment le reconnaître. Mais tout le monde le sait et malheureusement il a bénéficié d'ailleurs d'une coopération française pendant quelques années, organisé par Shimon Peres, qui avait un bureau au ministère de la Défense française sous la période d'avant l'entrée au pouvoir du général de Gaulle. Et donc, c'est ce que je souhaite, et que toute déflagration régionale aussi serait très dangereuse pour la région, vu l'ampleur des armements, y compris l'armement nucléaire, l'armement américain sous-marin, l'armement français aussi dans les bateaux à bord. Et effectivement, l'armement aussi dont dispose la Syrie et la Turquie et la Russie qui a des bases aussi. Donc, je ne souhaite pas une déflagration, mais je souhaite effectivement que l'État israélien soit fermement freiné dans toutes ces attaques. Et le seul moyen, c'est une résolution sous chapitre 7 qui serait très utile en fait, de rédiger pour contraindre l'État israélien à un processus de paix, à un désarmement rapide des colons et à l'instauration d'un État palestinien côte à côte avec une autorité normale, y compris une armée, une police armée et dans les limites de la ligne verte, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, avec un coup de barre à négocier pour assurer la continuité territoriale qui est nécessaire. Cet État palestinien.
Merci.
Et la Cisjordanie.
Merci beaucoup. Maître Hatem, alors, pour rappel, l'Iran n'a jamais cherché l'arme atomique et ses activités nucléaires étaient toujours à vocation pacifique et civile. Selon une fatwa du leader de la révolution islamique, l'Iran ne cherche jamais l'arme nucléaire et les armes de destruction massive. Selon les principes islamiques aussi. Donc, il faut rappeler que l'Iran est assez logique et assez intelligent pour répondre à Israël et aux actes d'agression contre ses intérêts dans le cadre du droit international, du respect des principes du droit international. Donc, il a choisi de répondre et il va le faire au moment et à l'endroit convenable et il se réserve ce droit de répondre à Israël. Donc passons à autre question avec vous s'agissant des intérêts des États-Unis, comme vous venez de dire que les États-Unis sont un grand allié d'Israël. Mais Israël a agi d'une manière qui a même mis en péril les intérêts de son allié américain. Désormais, la poursuite de la tension va au détriment des États-Unis sur tous les plans.
Oui, il faut dire une chose, c'est que le régime de M. Netanyahou met en cause non pas simplement ses alliés tels que les États-Unis ou les autres pays également qui ont pris sa défense dans l'exécution de crimes contre l'humanité qu'il est en train de faire sur le terrain avec le génocide de la population palestinienne. Mais il remet en cause également la sécurité de sa propre population. Il faut savoir que premièrement, Le régime de Netanyahou ne prend aucune mesure, comme lui demande la population, notamment les parents, les familles des prisonniers qui sont entre les mains des Palestiniens, de la résistance palestinienne. Deuxièmement, la façon dont les autorités de cette entité, de ce régime de M. Netanyahou s'en prend à sa population dans les différentes manifestations et qui sont tout à fait leur droit quand même de manifester et de critiquer le recours à cette guerre. Et il s'agit donc de manière, je dirais même nazie ou néo-nazie, de s'attaquer à sa propre population. On voit comment les gens sont traînés par terre, notamment certains religieux et haridim, mais il faut voir aussi la façon dont sont traités les falachas qui sont considérés comme étant la quatrième catégorie de la population dans ce système pyramidal racialiste de la société artificielle israélienne. Donc ça vous prouve, cela vous démontre quand même la poussée intégriste de cette idéologiquement mortifère de ce régime sioniste qui est fondé sur des principes racialistes, non pas simplement à l'égard de ceux qui ne sont pas de la religion juive ou des différentes confessions et différentes communautés, parce qu'il y a plusieurs communautés religieuses ou culturelles juives, mais également donc contre donc sa population, cette population israélienne qui est composée principalement de ces communautés-là.
Merci beaucoup, Maître Atem. Une minute peut-être devant nous, toujours. Monsieur Cournon, alors évoquons le cas de l'Ukraine aussi. C'est ce qu'a dit Téhéran, si ces actes alors survenaient en cas de l'Ukraine, alors est-ce qu'on assistait aux mêmes réactions de la part des Occidentaux?
Bon, certainement, il y a deux poids deux mesures dans la perception, dans l'empathie que les Européens et les Occidentaux en général donnent aux différents peuples quand ils sont victimes d'embargos, de répressions, de guerres, de tremblements de terre et tout ça. On a vu même la France et l'Europe gêner l'arrivée des secours en Syrie, dans les zones qui avaient été touchées par les bombardements. Et comme je l'ai dit aussi, quand une Américaine ou une journaliste américaine meurt dans une guerre, le gouvernement américain demande 3 millions de dollars, alors que quand l'armée américaine a tué des civils en Afghanistan, et ils sont très nombreux, par dizaines de milliers, eh bien, ils proposent 10 000 dollars. Donc on a vraiment deux poids et deux mesures dans cette humanité qui souffre avec ces grandes puissances qu'on peut appeler en fait les anciens empires coloniaux, parce que c'est ça, ceux qui dirigent le monde, ce sont les anciens empires coloniaux, les États-Unis qui ont détruit le peuple indien, la France qui a colonisé l'Afrique, l'Angleterre qui a colonisé l'Asie et l'Afrique, et le Portugal et l'Espagne qui ont colonisé le Sud. Voilà, c'est l'Occident, ce sont en fait le club des anciens empires coloniaux.
Merci beaucoup Bernard Cournon, analyste politique et spécialiste du Moyen-Orient. Et merci à vous, Maître Elie Hatem, analyste politique et juriste. Merci à vous, amis téléspectateurs et auditeurs. Au revoir, à la prochaine.
Une explosion du déficit public qui met la majorité dans l'embarras. Bercy avait préparé les esprits au début du mois de mars en annonçant que le déficit dépasserait significativement la prévision du gouvernement. Après plusieurs semaines d'incertitude, le déficit budgétaire de la France pour l'année 2023 s'élève finalement à 5,5%. Le couperet de l'INSEE est tombé le mardi 26 mars. Le déficit public dérape finalement à 5,5% du PIB en 2023 au lieu de 4,9%. Ces chiffres étaient très attendus et viennent confirmer les inquiétudes qui montaient depuis plusieurs jours. Il faut dire que ce niveau de déficit public place la France, troisième pays le plus endetté de la zone euro, parmi les mauvais élèves de l'Union européenne. La nouvelle, très mauvaise, pour Bercy éloigne toujours un peu plus la France de son objectif de repasser sous la barre des 3% de déficit avant 2027. Une ligne que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a promis vendredi dernier de tenir coûte que coûte. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, estime le député Renaissance Pierre Cazeneuve. Évidemment, quand on est à 0,6 point de notre objectif de réduction du déficit, évidemment que c'est inquiétant. Ça veut dire que la marche à poursuivre est encore longue. Malheureusement, c'est dû aussi à des facteurs macroéconomiques qui sont difficiles à anticiper. Son collègue député insoumis Éric Coquerel, qui préside la commission des finances, est également préoccupé. Mais par les pistes évoquées par le gouvernement pour redresser la trajectoire des finances publiques. Pour le RN, le constat est le même et il est sans appel. Tant d'erreurs et d'incompétences, moi je pense à tous ceux qui ont fait confiance à cet incapable de Bruno Le Maire et qui réalisent aujourd'hui que Bercy est entre les mains d'une personne malhonnête et incompétente, lance le parlementaire Jean-Philippe Tanguy. Ça va être très difficile à atteindre, met en garde auprès de l'AFP l'économiste Mathieu Plane, car la marche d'escalier pour revenir sous les 3% sera d'autant plus haute que le déficit 2023 sera élevé. C'était pourquoi le chiffre publié par l'INSEE était tant attendu, car chaque décimale compte. Pour faire simple, chaque 0,1 point de PIB de déficit supplémentaire en 2023 représente environ 3 milliards d'euros manquant dans les caisses de l'État, explique l'économiste. Les règles budgétaires de l'Union européenne ont certes été assouplies en ce début d'année 2024 avec une renégociation du pacte de stabilité et de croissance qui était en place depuis 1997 et la fin de la règle des 3% de déficit public et 60% de dette publique. Mais cette annonce place la France toujours plus en opposition aux pays dits « frugaux » comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Danemark, partisans d'une rigueur budgétaire bien plus stricte au sein de l'Union européenne. D'autant plus que les autres chiffres pour les prochaines années, glanés par le sénateur Jean-François Husson à Bercy, ne poussent pas vraiment à l'optimisme, en tablant sur un déficit à 5,7% en 2024, contre 4,4% actuellement prévu, et à 5,9% en 2025, contre 3,7%. Ce ne sont pas des prévisions, mais des notes techniques qui n'intègrent pas nécessairement des mesures supplémentaires, ni la révision d'un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qui fluctuent dans le temps, a tenu à rassurer auprès de l'AFP le député Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, admettant néanmoins un décrochage très significatif par rapport à ce qui était prévu et une situation qui inquiète. La dette publique allemande annonce de 62 milliards d'euros en 2023 pour atteindre 2 620 milliards d'euros. La dette publique allemande a augmenté de 62 milliards d'euros en 2023 pour atteindre 2 620 milliards d'euros. Selon les statistiques de la Banque fédérale d'Allemagne, la dette publique de la première économie de l'Europe a augmenté de 62 milliards d'euros, atteignant le chiffre sans précédent de 2 620 milliards d'euros. La base de ce calcul est la dette publique telle que définie dans le traité de Maastricht qui est harmonisé dans toute l'Union européenne. L'augmentation était similaire à celle de l'année précédente, mais nettement plus faible que les années précédentes. La dette du gouvernement central a augmenté de 75 milliards d'euros, tandis que celle des États a continué de diminuer. Le taux d'endettement, c'est-à-dire le rapport entre la dette et le produit intérieur brut, PIB, nominal, a diminué pour la deuxième année consécutive à 63,7%. Selon Deutsche Welle, la dette du gouvernement fédéral allemand a augmenté de 75 milliards d'euros, notamment en raison du soutien récemment apporté par Berlin aux consommateurs et aux entreprises, en plafonnant les prix du gaz et de l'électricité. Le mois dernier, la Banque fédérale d'Allemagne a annoncé que le pays était entré dans une récession économique en raison de la diminution de la demande intérieure et étrangère pour l'achat de produits allemands, ainsi que de la diminution des investissements nationaux. La Banque fédérale d'Allemagne considère l'augmentation des taux d'intérêt, qui a augmenté le coût du financement par le biais d'emprunts, comme l'un des facteurs de la diminution de l'investissement intérieur dans ce pays. Parmi les facteurs impliqués dans la récession économique de l'Allemagne, on peut énumérer une réduction des activités de construction, des grèves et une diminution de la demande étrangère. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022, le prix des vecteurs énergétiques a augmenté en Allemagne et pour cette même raison, l'économie industrielle du pays européen a connu une croissance de 0%, voire une croissance négative, pendant 4 trimestres consécutifs. La Banque fédérale allemande a admis qu'il n'y avait actuellement aucune perspective d'amélioration de la situation économique du pays et qu'au premier trimestre de cette année, les Allemands verraient par contre le PIB du pays diminuer probablement. En cas de poursuite d'une croissance économique négative en Allemagne, celle-ci serait plongée dans une récession économique, affirme la Banque fédérale allemande. Les performances faibles de l'économie allemande ont soulevé des questions sur la durabilité du modèle économique du pays. Entre-temps, les critiques estiment qu'une partie importante de l'économie du pays, étant fortement dépendante des vecteurs énergétiques et vulnérable à la hausse des prix de ces vecteurs, perd sa capacité à être compétitive sur le marché mondial. Et cela entraînera à terme un changement dans la structure de l'économie allemande. La Banque fédérale allemande avait auparavant averti que la période de faiblesse économique de l'Allemagne pourrait se poursuivre plus longtemps que prévu et que la plus grande économie d'Europe se heurterait à une récession. Les Américains sacrifieront l'euro pour sauver le dollar. Le principal concurrent des États-Unis est l'Union européenne. Par conséquent, afin de sauver le dollar et de le préserver en tant que monnaie mondiale dans le commerce et la finance, les Américains sont prêts à sacrifier leurs alliés européens et leur monnaie, l'euro. Cela n'est pas surprenant puisque Washington l'a déjà fait à plusieurs reprises avec ses partenaires les plus proches en Europe et en Asie. Premièrement, ils ont réduit la livre sterling dans les années 60 du XXe siècle et avec elle le colossal empire colonial britannique. Puis, dans les années 80, les États-Unis ont déclenché une guerre commerciale avec le Japon, qui est encore sous le choc. L'épopée en cours avec l'Ukraine et le chantage à l'égard de la sécurité militaire et énergétique de l'Europe ne sont donc que des éléments de la lutte contre un concurrent. Aujourd'hui, Washington tente de forcer l'Union européenne à confisquer quelques 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés pour avoir prétendument aidé et reconstruit l'Ukraine. Mais en réalité, les Américains poursuivent deux objectifs. Premièrement, cela devrait provoquer un émoi sur les marchés, suivi d'un effondrement de l'euro et d'une fuite des investisseurs vers le dollar. Deuxièmement, il est important pour les Américains que l'argent russe volé serve à soutenir l'Ukraine par le biais de l'OTAN, afin que les États-Unis puissent économiser le même montant de dépenses. Ce n'est également un secret pour personne que dans le projet de loi des démocrates sur l'aide à l'Ukraine, sur les 60,6 milliards de dollars convenus, Kiev recevra au mieux environ 6 milliards de dollars. Le reste sera approprié par le gouvernement. Les républicains approuveraient probablement ce document si la question ukrainienne était distincte des autres. Mais les démocrates ont également lié au projet de loi mentionné l'aide à Israël, à Taïwan, la propagation de la démocratie dans le monde et, plus important encore, et inacceptable pour les républicains, les questions de frontières américaines et de migration. Joe Biden souhaite que 12 millions de personnes votent pour lui à l'élection présidentielle, ce qui, bien entendu, ne ravit pas Donald Trump et son équipe. De toute évidence, les États-Unis ont décidé de faire porter le problème de l'Ukraine sur les épaules de l'Union européenne. Ce n'est pas surprenant, car la dette nationale américaine dépasse déjà 34 000 milliards de dollars, ayant augmenté de près de 10 % en un an seulement, soit 2 700 milliards de dollars. Et le service de cette dette soulève des questions. Nous saurons dans un avenir proche si les Américains seront en mesure de faire chuter l'Europe.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.